Avec Xavier Hamel, retour sur la péricope de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 9 à 13, où il est question de bonne et de mauvaise réputation.
Jésus partit de là et vit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau de paiement des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et déclara « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux. Car je ne suis pas venu appeler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise réputation. Je ne suis pas venu appeler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise réputation. » Telle est donc la parole de Jésus qui vient aujourd'hui nous interpeller en conclusion des textes proposés par notre Église. La respectabilité et la réputation. Beaucoup parmi nous recherchent ces deux éléments pour leur vie dans notre société, afin d'être bien vus par les autres, éventuellement d'en tirer des avantages pour maintenir ou améliorer leur situation personnelle. Même si cela semble positif, ces deux notions portent cependant en germe la séparation, le classement, le jugement des autres. Car si l'on se dit respectable, si l'on a bonne réputation, cela signifie que d'autres ont mauvaise réputation et ne méritent pas le respect, établissant ainsi une hiérarchie entre les êtres humains, avec tous les risques de domination et de conflit que cela comporte. C'était déjà le cas du temps de Jésus et probablement depuis que l'humanité existe. Le texte que nous venons de lire fait mention des pharisiens qui appliquaient les préceptes religieux à la lettre afin de rester purs et ainsi accomplir la loi de Dieu. Ils méprisaient tous ceux qu'ils jugeaient impurs et les rendaient responsables des malheurs de leur peuple, comme ici les collecteurs d'impôts, collaborateurs de l'occupant romain, et d'une manière générale, tous ceux désignés comme pécheurs. Pécheur, c'est la façon de traduire le mot grec amartolos, qui est traduit comme pécheur dans d'autres traductions. Le sens premier de ce mot, ça veut dire qui fait fausse route, qui se trompe, d'où pécheur au sens figuré. Le français courant a donc préféré comme traduction personne de mauvaise réputation. Jésus mange avec des pécheurs, d'où l'indignation des pharisiens de voir Jésus manger avec tous ces gens impurs, alors qu'ils considèrent Jésus comme pur du fait de son enseignement et des guérisons qu'il opère. Il y en a un exemple juste avant notre texte du jour où Jésus guérit un paralytique. Pourquoi donc ne reste-t-il pas avec nous, personnes respectables, au lieu d'aller avec tous ces moins que rien ? Cela semble être le sous-texte de la question que se posent les pharisiens et qu'ils posent aux disciples de Jésus. Mais Jésus répond lui-même, les ayant entendus, et leur répond avec une référence au Premier Testament. Vous avez sans doute remarqué que le texte de Matthieu que nous avons lu contient une citation du texte d'Osée lu précédemment. « Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux » dans Matthieu fait écho à « qu'on agisse avec bonté, voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices » chez Osée. Il y a déjà dans le texte d'Osée, et c'est repris ici par Jésus, une notion de priorité de la bonté, on pourrait aussi dire la charité ou la miséricorde, une priorité de la bonté sur les règles religieuses, dont faisaient partie les sacrifices d'animaux effectués dans le temple de Jérusalem pour rendre à nouveau pur ce qui était impur. Dit autrement, il ne sert à rien de suivre des règles et des dogmes si on oublie d'aimer son prochain en lui venant en aide quand il en a besoin. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens, ici comme tout au long des quatre évangiles. Ils sont plus préoccupés par le respect pour eux-mêmes de la loi de Dieu, manifestée dans les 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï, que par l'attention aux autres, et notamment à ceux qui, justement, n'arrivent pas à respecter ces commandements. Pourtant, Jésus ne nie pas que ceux que les pharisiens nomment pécheurs, ceux impurs à leurs yeux pour n'avoir pas respecté l'une ou l'autre des obligations religieuses de l'époque, Jésus donc ne nie pas que ce sont des pécheurs, puisqu'il les compare à des malades qui ont besoin d'un docteur. Et c'est bien là qu'il veut placer son action, auprès de ceux qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas respecter toutes les exigences. Et contrairement aux pharisiens, qui ont l'air de penser qu'on ne peut rien pour eux et qu'il faut les mettre à part, Jésus vient manger avec ceux qui sont laissés pour compte. Il vient s'occuper d'eux. Il vient pour les relever, pour les aider à avancer à nouveau, sans émettre un jugement définitif sur leur situation. Je trouve que c'est rassurant pour nous, car cela veut dire que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous accorder son amour. Il nous rejoint tel que nous sommes et nous demande simplement de le suivre. Et c'est cela qui peut transformer nos vies. Nous sommes à l'image de Matthieu au début du texte. Jésus le voit et lui dit simplement « Suis-moi ». Pas d'explication, pas d'argumentation, un simple appel. Qu'auriez-vous fait à la place de Matthieu ? Je pense pour ma part que j'aurais demandé une raison ou une explication pour suivre quelqu'un que je ne connais pas. Ou bien je serais resté assis à ma place en me demandant qui est cet homme qui me demande de le suivre. Mais ici, rien de tel. Matthieu ne pose pas de questions, n'attend pas d'explication. Il se lève, il abandonne tout et il suit Jésus. Avait-il déjà entendu parler de lui ? L'a-t-il suivi par mimétisme avec le groupe qui le suivait déjà ? A-t-il perçu quelque chose qui n'est pas indiqué dans le texte ou était-il simplement obéissant de nature ? Le texte ne le dit pas. Nous n'avons pas d'explication rationnelle, simplement un appel « Suis-moi » et une réponse en action à cet appel. Car Matthieu ne répond pas par des paroles, il répond par un acte. Se lever en laissant tout derrière lui et suivre Jésus. Quel bel exemple de foi pour moi. Matthieu ne choisit pas de suivre Jésus selon des critères objectifs, en pesant le pour et le contre. Il décide de le suivre malgré l'incertitude, malgré, on peut l'imaginer, le doute. J'entendais l'autre jour Charles Pépin, dans la question philo sur France Inter, expliquer cette distinction entre choisir et décider. Choisir, c'est évaluer toutes les possibilités, car elles sont toutes connues, et conserver la meilleure. Décider, c'est prendre une direction sans avoir toutes les informations à sa disposition pour réellement choisir. Et il conclut en disant que décider, c'est accepter de ne pas avoir la maîtrise de tout ce qui nous entoure. C'est un saut dans l'inconnu que l'on peut appeler la confiance. Foi, confiance, vous le savez sans doute, ces deux mots ont la même racine et des sens similaires. Sur un simple appel de Jésus, Matthieu a donc décidé de faire confiance, a mis sa foi en Jésus. La foi, c'est tout le contraire de la certitude. On entend souvent les contempteurs de la religion se moquer de la croyance en Dieu en disant qu'il n'y a pas de preuve de son existence. On rencontre aussi régulièrement des croyants qui disent être inébranlables dans la foi, être certains que Dieu existe. Je pense que ces deux attitudes sont similaires. Elles cherchent à rationaliser Dieu. Mais je pense aussi que la foi, c'est tout sauf ça. C'est la décision de faire confiance malgré le doute, d'espérer malgré l'absence de preuves. C'est cette confiance malgré le doute que Dieu génère en nous et qui nous permet de répondre à son appel. C'était déjà cette confiance à l'œuvre chez Abraham. Dans le passage de l'Épître aux Romains que nous avons lu, Abraham est présenté comme modèle pour tous les croyants. Lui aussi a eu confiance en Dieu malgré ses doutes. Confiance dans la promesse de Dieu et dans le fait que Dieu avait les moyens de tenir sa promesse. Paul nous rappelle ici que même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, nous pouvons croire et espérer comme Abraham. C'est aussi cela la foi, une confiance en Dieu au-delà de toutes nos limites humaines. Abraham n'avait aucune certitude quand il a entendu Dieu lui promettre un fils, alors que Sarah et lui étaient déjà si vieux. Mais il a décidé de faire confiance quand même, et Dieu lui a effectivement donné une foule de nations en descendance. Car Dieu a récompensé la foi d'Abraham en le considérant juste. C'est ce que Luther a formalisé sous le terme « justification par la foi », initiant ainsi la réforme protestante. À la suite de Paul, Luther a redit que ces mots écrits pour Abraham sont valables pour nous aussi. Par la foi en Dieu et en Christ, nous sommes sauvés et considérés comme justes. C'est la foi qui nous rend justes et non nos œuvres. Voilà ce que Paul avait expérimenté. Lui, le pharisien, qui voulait accomplir la loi par ses œuvres et a pour cela persécuté les premiers chrétiens, avant de changer fondamentalement après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Voilà ce que Luther a redécouvert alors qu'il luttait contre l'angoisse en réalisant l'impossibilité de se sauver par ses propres œuvres. Cela rejoint le point de départ de notre réflexion sur la respectabilité et la réputation. Puisque ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, la recherche de respectabilité et de bonne réputation est un leurre, une attitude purement humaine qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes choses que Dieu nous aime, mais c'est parce que Dieu nous aime que nous faisons de bonnes choses. Les œuvres de miséricorde et d'amour sont une réponse à l'amour premier de Dieu. C'est ce qu'avait résumé en son temps Augustin d'Hippone, un des pères de l'Église, dans une formule qui peut nous inspirer encore aujourd'hui. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Aie au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Aime et fais ce que tu veux. Posons-nous donc la question, à chaque fois que nous agissons, à chaque fois que nous prenons une décision, sommes-nous bien mus par l'amour de notre prochain ? Question difficile, mais indispensable si nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Laissons de côté ce qui sert notre propre intérêt au détriment de celui des autres. Agissons plutôt dans l'intérêt général, en tendant la main à celles et ceux qui sont dans le besoin et en acceptant la main tendue par celles et ceux qui veulent nous apporter leur aide. C'est ainsi que grandira la fraternité, la sororité, l'adelphité entre tous les êtres humains. C'est ainsi que le royaume de Dieu pourra s'étendre, aujourd'hui et maintenant. Jésus est allé à la rencontre de ceux qui étaient mal vus par les bien-pensants de son époque. Il a mangé avec eux, car il avait identifié qu'ils avaient besoin de lui, au-delà des règles religieuses humaines qui étaient alors en vigueur. Ne nous laissons donc jamais enfermer dans des règles humaines qui nous asservissent et nous coupent de nos frères et sœurs en humanité. Mais abandonnons l'importance que nous donnons à tout ce que nous avons, tout ce qui nous pèse en nous rattachant à la matérialité de notre humanité, pour être transformés par l'amour de Dieu et avancer plus librement en gardant l'amour de notre prochain au cœur. C'est ainsi que Jésus vient nous rejoindre et nous accompagne sur le chemin. C'est ainsi que nous pouvons à nouveau répondre à son appel. Toi, suis-moi. Amen.